Jeux vidéo.
Pour les jeux vidéo, c'est Raphaël que l'on retrouve. Salut, re-salut Raphaël.
Re-salut Léo et salut à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Cet été, les actualités autour du jeu vidéo n'ont pas pris de vacances. Noyé par ce flot incessant d'informations, il n'était pas facile pour moi de trouver de très bonnes sources d'inspiration pour mes chroniques. Pourtant, c'est sur le site anglophone GameSpot qu'un billet de blog a retenu mon attention. Alors que les éditeurs et marketeurs se bousculent pour faire parler de leur jeu, la journaliste Jessica Howard a, dans un article publié le 18 août dernier, raconté sa relation particulière qu'elle a eue avec les jeux dits pour garçons. Bon, j'avoue qu'au début, je ne m'attendais pas à grand-chose en lisant l'article. Dans ma tête, dire qu'un jeu soit pour filles ou pour garçons en 2022, je considère que cela ne veut rien dire. Mais rassurez-vous, pour Jessica aussi, cette appellation n'avait aucun intérêt. Enfin, ça, c'était jusqu'à la sortie du tout premier Halo et l'explosion des jeux de tir dans les années 2000.
Quand tout semble perdu, quand ils sont trop nombreux, trop puissants, quand vous êtes pris au piège, vous réalisez que votre dernier espoir, c'est vous.
Ces jeux, ils étaient destinés à un public masculin et mettaient en avant des personnages et des figures qui représentaient une certaine forme de perfection masculine. Alors, je vous invite évidemment à aller lire l'article intitulé « I refused to play boy games until I realized I was missing out », soit en bon français « Je refusais de jouer à des jeux entre parenthèses pour garçons jusqu'à ce que je réalise ce que je ratais ». Pendant ce temps, j'aimerais revenir sur comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi Jessica, en grandissant, s'est vue peu à peu rejetée par certains jeux, mais surtout leur communauté en raison de son genre. Et cette question, si on la posait à un enfant des années 70, eh bien, il ne saurait pas nous répondre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à la fin des années 70, durant l'âge d'or d'Atari, les pubs de jeux vidéo avaient pour cible les familles et ciblaient aussi bien filles que garçons. Aussi, dans les salles d'arcade, tout le monde était invité à battre le record de tout le monde, ce qui crée réellement une forme de compétition mixte. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Ce changement de cible marketing, il va arriver à la suite du crash du jeu vidéo aux États-Unis aux alentours de 1983. Ce dernier fut causé dû à une implosion de l'offre de jeux, et notamment de jeux pas finis. Avec le temps, on n'a pas eu trop de mal à trouver les coupables, hein. Il s'agit évidemment des producteurs, et comme toujours, du capitalisme. Ceci dit, le jeu vidéo aux États-Unis ne s'est pas arrêté puisqu'un petit artisan japonais qui s'appelle Ryo Nintendo va débarquer sur le marché américain et va, afin d'écouler ses stocks, revoir la stratégie marketing globale du marché, soit comment on vend un jeu. Ainsi, la firme de Kyoto va se baser sur une étude réalisée par des éditeurs. Ces derniers sont partis à la rencontre des joueurs de différents tournois de jeux vidéo organisés dans des salles d'arcade à travers tous les États-Unis. À ces compétitions, on retrouvait énormément de garçons, et ainsi, ils se sont imposés comme un public cible. D'ailleurs, comment s'appelle la première console portable à cartouche interchangeable de Nintendo ? Eh ouais, la Game Boy. Alors, vous l'aurez deviné, s'il y avait plus d'hommes, c'est parce que la compétition est déjà une valeur masculine. Ce constat, qui est donc dès le départ faussé par des constructions sociétales, va ainsi donner la tendance pour les 10, 20, et allez on peut le dire, 30 années qui vont suivre pour le marketing des jeux vidéo. Ce choix du marketing genré ne sera pas aidé par la presse qu'auront les œuvres vidéoludiques à la suite du crash. Vu d'un mauvais œil par les consommateurs, les constructeurs ne pouvaient pas écrire sur leurs machines qu'il s'agissait de consoles de jeux s'ils souhaitaient les vendre. Ainsi, ces dernières ont été vendus comme des jouets, et les publicitaires ont ainsi repris les discours genrés entourant les jouets présents bien avant les jeux vidéo. Alors, dès les années 80-90, c'est une véritable compétition à celui qui fait la pub avec la blague la plus graveleuse. En plus de favoriser une guerre des consoles en se moquant par pub interposée de leurs adversaires, Nintendo et Sega, les deux principaux acteurs du marché à l'époque, vont laisser s'installer une imagerie masculine forte dans le paysage vidéoludique.
Mega Drive de Sega, 16 bits, c'est plus fort que toi, méga plus fort.
Après, c'est pas les occasions qui vont manquer, puisque les développeurs n'aident pas au vu du design de certains personnages féminins. Et oui, une des autres causes qui fait que les jeux vidéo vont avoir cette imagerie sexiste, c'est qu'il s'agit majoritairement d'hommes derrière les gros succès du médium. Et toutes ces causes, véritablement toxiques, sont encouragées par le marketing, qui se voulait simple et qui voulait parler au plus de monde possible. Ainsi, la publicité n'hésitait pas à se servir d'idées déjà véhiculées dans un imaginaire plus ancien, notamment celle de la femme objet. Heureusement, comme dans à peu près toutes les industries culturelles, le sexisme est devenu de moins en moins présent. Attention, je n'ai pas dit qu'il avait disparu. Cependant, le mal a déjà été fait. Les joueurs et joueuses biberonnés au marketing genré ont assimilé cette idée que certains jeux sont pour les garçons et d'autres pour les filles, et cela malgré la bêtise d'un tel raisonnement. Car oui, de nos jours, se contenter de vendre son jeu en se basant uniquement sur un public masculin, c'est se priver du plus du double de la population jouant aux jeux vidéo. Et comme on l'a vu, cette idée que certains jeux sont pour les garçons ou pour les filles, elle n'est absolument pas naturelle et s'est construite sur des traditions plus anciennes que le média vidéoludique. Ici, j'ai souhaité me concentrer sur le marketing, mais il est difficile de ne pas aborder tous les points qui font que Jessica n'a pendant longtemps pas pu apprécier une pléthore d'excellents jeux à cause des valeurs les entourant. C'est pour cela que je vous invite aussi à vous intéresser au sujet, notamment à travers le documentaire qui sont les joueurs de jeux vidéo de la chaîne YouTube Game Spectrum, et des vidéos de H, vidéaste et aussi chroniqueuse pour Radio Campus Paris. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet plus léger, mais toujours pour parler de JV.